Les enjeux internationaux, bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Ali.
Et ce matin, les mercenaires et la privatisation de la violence dans les conflits armés contemporains.
Avec notre invité Michel Klein, spécialiste militaire et auteur d'un ouvrage sur la question aux éditions Ellipse qui s'intitule L'Odyssée des mercenaires. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la pratique du mercenariat est vieille comme le monde, vous le rappelez d'ailleurs, elle a beaucoup évolué depuis un certain nombre de siècles et notamment également de décennies. L'appel à des mercenaires qui ne sont pas tous des têtes brûlées s'est largement répandu dans des régions clés lors de sans conflit, notamment en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Alors, qui sont ces hommes? À quels idéaux, à quels motifs financiers obéissent-ils? Comment est-ce qu'ils sont utilisés par les États? Comment est-ce que ces fonctions peuvent ou doivent-elles être régulées? Et puis, il y a une chose à dire, c'est qu'on sait bien ce qu'ils ne sont pas, on sait un peu moins ce qu'ils sont. Alors, ils ne sont pas. Ce ne sont pas des paramilitaires, ce ne sont pas des francs-tireurs, ce ne sont pas des légionnaires, ce ne sont pas des miliciens, ce ne sont pas des chefs de bande. Et j'ai toute une liste, comme ça, à pêle-mêle, évidemment, que j'avais établie très, très, très simplement. Alors, il y a une définition, quand même, de quoi parle-t-on? Il y a une définition française qui a été donnée, vous le dites, par les Français. Tout individu spécialement recruté pour combattre dans un conflit armé, non ressortissant d'un État parti à ce conflit, ni membre de ses forces armées, qui prend ou tente de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel. Et on voit que c'est une définition, comme on pourrait-on dire, semi-négative, ce qui ne vaut pas en grammaire. C'est-à-dire on dit plein de choses négatives, mais on n'arrive pas à arriver au cœur même de cette activité, de ce statut.
Alors moi, je dirais plus simplement qu'un mercenaire, hein, du reste, comme le dit le dictionnaire, c'est un soldat qui sert à prix d'argent une organisation, un gouvernement ou un parti étranger. Donc, ce soldat de fortune, c'est le nom qu'on lui donne, n'appartient pas à l'armée régulière d'un État.
Et ce n'est pas non plus un national.
Ce n'est pas un national. D'ailleurs, la devise des mercenaires, c'est Orbs Patria Nostra, le monde est notre patrie. Donc, le mercenaire est un soldat privé.
Là, on a l'impression
par opposition au soldat d'État d'une armée régulière.
Une armée régulière. Et qui relève de l'État et de l'autorité régalienne de l'État. Alors, justement, Michel Klein, on a l'impression qu'il y a une grande diversité quand même de mercenariat et de mercenaires dans le monde, au moins depuis des décennies.
Oui.
Alors, mais on ne peut pas tous les mettre dans la même boîte.
Non. Les trois grands pôles les grands pôles de recrutement de cette ressource martiale, ce sont d'abord l'ancienne URSS, lorsque l'URSS donc a été dissoute, a été désintégrée, tous les anciens militaires des anciennes républiques soviétiques ont rempli le terreau de mercenaires. Idem pour l'ancienne Yougoslavie, dans les Balkans, qui a fourni donc un terreau de mercenaires lorsque les armées ont été dissoutes. Pareil en Afrique, notamment en Afrique du Sud, lorsqu'il y a eu la transmission du pouvoir à la majorité noire en 1994, les militaires blancs, officiers sous officiers, beaucoup de ces militaires ont démissionné de l'armée et ont constitué donc un vivier de recrutement pour les compagnies privées de mercenaires.
Voilà, alors c'est ça, il y a une industrie ou en tout cas un commerce du mercenariat où, paraît-il, les Anglais sont réputés, en tout cas, c'est pas paraît-il, ils sont réputés champions.
Oui, alors, notamment les anciens SAS britanniques, SAS, les Special SAS, Air Service, qui fournissent donc des éléments importants pour ces compagnies privées, des anciens légionnaires, des anciens parachutistes français également, qui à la retraite ont quand même un désir d'aventure, une soif d'exotisme, donc s'engagent par le goût de l'action.
Il n'y a pas que l'appât du gain.
Il n'y a pas que l'appât du gain. Pour beaucoup, il y a l'appât du gain, mais il y a aussi souvent un engagement idéologique. Je prends l'exemple des mercenaires qui sont engagés en Birmanie pour aider les Karen. Les Karen, c'est ce peuple de chrétiens d'Asie qui est opprimé par la dictature militaire de Rangoon. Ces mercenaires donc ont eu un engagement idéologique qui s'appuyait sur la défense des valeurs chrétiennes en Asie. Donc voilà un exemple. Il y en a d'autres qui s'engagent par anticommunisme.
Qui servent une cause.
Qui servent une cause. Donc il y a différentes sources, différentes motivations pour ces soldats, donc 10 soldats privés.
Alors, ce qui est frappant aussi dans les récents conflits, c'est l'appel d'air justement, dû à notamment l'éclatement d'un certain nombre de fédérations communistes, vous l'avez dit, ou alors d'autres d'États, par exemple le cas irakien, le cas afghan, qui ne sont pas des États éclatés, mais qui sont potentiellement balkanisés.
Alors justement, l'Irak surtout, et l'Afghanistan dans une moindre mesure, sont devenus un véritable Yalta, pour la répartition des contrats aux sociétés militaires privées. Alors, ces sociétés militaires privées, essentiellement américaines, sous-traitent des tâches qui étaient traditionnellement dévolues aux militaires. Hein. Je pense à de sécurité, par exemple l'aéroport de Bagdad, la protection de l'aéroport de Bagdad est assurée par une compagnie militaire privée américaine. La protection de la zone verte, cette zone de sécurité, donc...
Une sorte de bunker officiel.
Le bunker où se trouve le Parlement, les bâtiments officiels, des ONG, etc. Cette zone verte est protégée par des compagnies privées, militaires privées.
Mais qui, elles, quand même, ont partie liée avec l'État américain.
Oui, alors justement, le Patagone emploie ces compagnies militaires privées. Du reste, on appelle ces sociétés militaires privées les comptes de tiers du Patagone. Je pense notamment à MPRI, qui est la société la plus connue. MPRI, c'est Military Professional Resource Incorporated, qui fournit des cadres et des conseillers pour former les milices ou les gens qui assurent la protection des personnalités.
Ce sont des sociétés civiles à vocation donc militaire. Utilisées par des États, en l'occurrence un État, les États-Unis. C'est un cas quand même très particulier, oui. Mais qu'on retrouve ailleurs. C'est-à-dire que c'est une tendance apparemment depuis un certain nombre d'années.
Les États-Unis ont beaucoup utilisé, notamment MPRI, au Congo. Lorsque Mobutu a été renversé...
au milieu des années 90.
Là, en 97... MPRI a fourni des conseillers et des cadres à la guérilla de Kabila qui a renversé Mobutu.
Alors on ne va pas entrer dans le détail parce qu'il faudrait citer évidemment toutes les guerres civiles qu'il y a eu par exemple en Afrique, en Sierra Leone,
Liberia, Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Gbagbo a utilisé des mercenaires pour piloter les avions de type russe qu'il avait, notamment des mercenaires biélorusses.
Alors justement, donc, juste d'un mot, que font les États par exemple? Que fait la France? Est-ce qu'elle a une doctrine entre guillemets en la matière? J'ai vu que vous les citiez, il y avait un certain nombre de déclarations, y compris de ministre de la Défense français évidemment. Oui. Ou de responsables, et on voit qu'il y a une prise en compte de ce dossier, cette question.
Oui, ce dossier a été pris en compte sérieusement en 2002. Il y a eu un débat, il y a eu une loi, et notamment la ministre de la Défense de l'époque, qui était Michèle Alliot-Marie, a dit « On ne peut dénier aux États le droit de se défendre en renforçant leur appareil militaire ».
Mais j'ai vu des ministres dits de gauche, en tout cas, ou de gauche,
oui,
etc., tenaient à peu près le même, pas le même point de vue, mais la même approche.
Alors, tout à fait. Alors, pour résumer, on peut dire que la France condamne le mercenariat, mais officieusement, elle accepte. Et c'est au moment où le mercenariat est de plus en plus condamné qu'explose, d'une façon exponentielle, le nombre des sociétés militaires privées.
D'où le besoin de les encadrer, surtout de les contrôler,
voilà.
Je suppose.
Alors, le problème, c'est de les encadrer et de mieux définir leur champ d'intervention. C'est ce qu'a voulu faire le fameux livre vert britannique qui est paru en 2002 sous le sceau du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jack Straw, et qui propose...
trois dispositions pour les encadrer non seulement les contrôler, mais en fait sans doute aussi s'en servir.
S'en servir, absolument. Donc il propose notamment de délivrer des licences d'exportation de services paramilitaires bien définis.
C'est rien que l'expression en français, c'est très anglo-saxon.
C'est très anglo-saxon, mais c'est ce que font un peu les États-Unis. Et également, il propose d'imposer au CMP, c'est compagnie militaire privée, d'informer le gouvernement de la nature du contrat passé avec l'État demandeur. Car il y a de plus en plus d'États demandeurs de ces compagnies de sécurité. Alors vous voyez, le problème, c'est de trouver la frontière entre compagnie de mercenaires, qui est un terme péjoratif, avec compagnie de sécurité, c'est une nécessité économique finalement. Les entreprises qui travaillent à l'étranger, notamment en Irak, en Afghanistan, ont besoin de protéger leur site et leur personnel. Donc, il faut définir la frontière entre sécurité et mercenariat. C'est là tout le problème.
Bien, on voit que le thème est riche. En tout cas, l'Odyssée des mercenaires et Ellipse, Michel Klein, je vous remercie. On peut réécouter l'émission, évidemment, le jour même. D'ailleurs, pendant 6 mois, très exactement, la télécharger le jour même, beaucoup de bibliographies. On verra d'ailleurs une émission de janvier 2008 à laquelle vous aviez également participé sur ce même